Radio Kapi.
Le journal à la présentation, Lievin Mwinga.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord les titres de ce journal. Poursuite d'intenses combats pour la deuxième journée ce mercredi, non loin de Lubero, centre au nord Kivu. FRDC et éléments du M23 s'affrontent précisément dans les localités de Ndoluma et Kitsombiro. Face à l'ampleur des combats, des élèves de certains établissements ont été renvoyés à la maison. Nous parlerons santé dans ce journal avec le choléra qui gagne du terrain dans le Haut-Katanga. Tenez, plus de 1500 malades, dont 37 décès déjà recensés depuis le début de l'année. Notre invité est Paulin Kosseou. Il est porte-parole de l'UNICEF à Goma. Il va nous éclairer sur l'impact de la guerre sur les enfants et les conséquences sur leur bien-être. Vous le suivez vers la fin de ce journal. Encore une fois, bonsoir, je le disais en titre, d'intenses combats ravagent plusieurs localités de Ndoluma et Kitsombiro, situées à environ 60 km de Lubero centre. Nous sommes au nord Kivu. Ces affrontements qui se poursuivent pour la deuxième journée consécutive ce mercredi opposent toujours les FRDC aux éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Ces combats qui se rapprochent dangereusement de Lubero centre poussent certains établissements scolaires à renvoyer les élèves avant l'heure habituelle de la fin des cours. André Kitemge nous fait le point.
La tension demeure encore vive à Ndoluma et Kitsombiro, deux villages situés à environ 60 km de Lubero au centre, où des violents combats opposent depuis ce matin les FRDC appuyés par les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon des sources locales, les rebelles ont lancé des attaques simultanées en larguant des bombes tôt ce matin sur des positions des FRDC pour occuper Ndoluma et Kitsombiro où la situation reste confuse. Selon des sources locales et sécuritaires, les affrontements se déroulent encore dans les environs de ces deux villages où les hélicoptères de combat des FRDC ont été mises à contribution pour stopper l'avancée des rebelles du M23 sur l'axe Kitsombiro-Lubero centre. Les mêmes sources indiquent que quelques soldats considérés comme des fouillards parmi les FRDC qui ont quitté leur position initiale ont été arrêtés. Pour le moment, d'autres combats sont également signalés entre Kitsombiro et Katundi à une vingtaine de kilomètres de Lubero centre. Face à cette énième escalade, un déplacement des populations a été observé ce matin vers des zones jugées sécurisées, indiquent nos sources sur place. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et puis nous venons de l'apprendre, selon des sources locales, un appui aérien a permis aux FRDC de contenir l'attaque des M23 et leur soutien RDF et de repousser les assaillants jusqu'à l'entrée de Kitsombiro. Les mêmes sources affirment que les rebelles du M23 ont abandonné des armes et équipements militaires en prenant la fuite. Nous y reviendrons. La rupture de la connexion entre la ville de Goma avec les autres provinces a des incidences sur les producteurs et revendeurs de Goma. Beaucoup d'entrepreneurs expriment leur hésitation et leur découragement de relancer leurs activités en tenant compte de la baisse drastique des preneurs et des consommateurs. Les grands marchés d'écoulement se trouvent dans d'autres provinces et deviennent inaccessibles en raison de la fermeture des voies et axes stratégiques. Reportage Denise Loukesso.
Madame Bijou Salima, femme entrepreneur, ne peut plus fournir son beurre d'arachide aux alimentations des Bukavu.
Dans la situation actuelle, on n'a pas moyen de produire en grande quantité, faute des moyens de transport pour amener le beurre d'arachide au niveau de Bukavu. Sur le marché local, au niveau de Goma, beaucoup de gens ne sont plus pour acheter. Et les clients aussi qui nous amènent les arachides, il n'y a pas moyen de nous amener encore en grande quantité, faute de la situation actuelle. C'est pourquoi on est bloqué.
Les activités dans les grandes fermes de production des saucisses, des fromages et du lait frais, pour ne citer que ces quelques produits phares du Kivu, tournent au ralenti pour les uns et sont karma aux arrêts pour les autres, les voies d'écoulement quasi fermées. Pour le professeur Dadi Saleh, il y a risque que les entrepreneurs tournent leur business vers les pays voisins où s'offrent actuellement les opportunités d'affaires.
Nous connaissons le dynamisme extraordinaire des entrepreneurs gomatraciens et que les dangers ici, c'est que il risque de reprendre en s'alliant plus au Rwanda, Kampala et à Nairobi, ce qui sera une perte pour la République démocratique du Congo.
Cet économiste dit craindre que cette situation profite encore aux entrepreneurs étrangers. Le professeur Dadi Saleh recommande qu'il est temps pour la RDC d'avoir des politiques économiques de guerre pour faciliter les entrepreneurs congolais à se relever.
Situation de l'Est du pays, toujours la Croix-Rouge de la RDC, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se disent profondément préoccupés par la dégradation continue de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC et la région des Kivu et Goma en particulier, justement dans la ville de Goma. Dans un communiqué, ces organisations indiquent que des milliers de civils, dont des femmes, des enfants, des blessés, des malades, sont frappés de plein fouet par les effets du conflit. Les derniers combats dans la ville de Goma, capitale du Nord Kivu et ses environs, ont forcé des centaines, des milliers de personnes à prendre la fuite en laissant tout derrière elles. Alain Irung nous propose un condensé de ce communiqué.
Au-delà de plusieurs milliers d'habitants de la ville, ce sont aussi près de 300 000 autres personnes qui avaient trouvé refuge dans des camps de déplacés situés à la périphérie de Goma qui ont fui les affrontements, lesquels d'ailleurs ont laissé plusieurs centaines de corps sans vie gisant dans les rues. Le CICR soutient la Croix-Rouge de la RDC pour procéder à l'enlèvement digne et sécurisé des dépouilles à Goma. Nous sommes inquiets pour les personnes déplacées qui se trouvaient à Goma et qui étaient déjà très vulnérables après avoir fui parfois à de multiples reprises d'autres territoires du Nord et du Sud Kivu. La situation humanitaire qui prévaut actuellement à Goma et à Bukavu est très préoccupante. À Goma, les morgues des hôpitaux sont complètement saturées. Près de 190 volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, appuyés par une équipe de coordination, travaillent sans relâche afin de récupérer les corps abandonnés dans les rues, de lutter contre les épidémies et d'offrir un enterrement digne aux victimes des combats. Il est urgent d'apporter une aide supplémentaire face à des besoins aussi importants, alerte Grégoire Matesso Mbuta, président de la Croix-Rouge de la RDC.
Sachez aussi que le gouvernement s'investit dans la sécurité de proximité. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières organise du mardi au vendredi un atelier de partage d'informations et d'expériences en matière de gouvernance sécuritaire. Pendant 4 jours, ses participants sont outillés sur les notions de sécurité des entités. C'est un reportage signé Blaise Ndongala Mayanda.
Au moins 700 membres des comités locaux de sécurité des 24 communes de la ville de Kinshasa, y compris les chefs des quartiers, participent à ces sessions de formation en vue d'appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public. À travers cette formation axée sur les innovations du décret des comités locaux, les bénéficiaires sont outillés des notions devant leur permettre d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ils sont également appelés à veiller à la tranquillité publique et à la sécurité à partir de la base. Les participants à cette session affirme être satisfait des notions dispensées, comme estime l'un d'eux.
Je m'en vais d'abord jeter le fleur au patron de l'intérieur pour la toute première fois cette formation et vu le problème que nous sommes en train de vivre dans notre pays, cet éveil patriotique, ça nous a outillés en tant que gestionnaire de nos entités. Là, on va communiquer, inculquer ce valeur-là à notre population parce qu'il y aura des réunions élargies.
Maître Alphonse Tamboué Kikangala, qui a lancé ses travaux au nom du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a par ailleurs invité les participants à faire preuve d'abnégation en vue de gérer la sécurité de proximité en information, prévention, anticipation et intervention.
Mise en place d'une cellule de crise et de solidarité en rapport avec la situation des magistrats en cette période d'insécurité dans l'Est de la RDC, c'est ce qui ressort d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature tenue hier mardi à Kinshasa avec tous les membres à la Cour constitutionnelle. Il faut dire qu'il a passé au peine fin plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Compte rendu, Jeff Ngoy.
Parmi les points examinés, le secrétaire permanent du Conseil signale la situation des magistrats indépendants ainsi que des agents de l'ordre judiciaire face à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays. L'opération don de sang des magistrats pour participer à l'élan de solidarité nationale et d'aide aux blessés de guerre, l'actualisation des listes des candidats magistrats, session 2024, l'affectation des juges dans des juridictions inférieures aux tribunaux de grande instance et tribunaux de paix, l'état d'avancement du dossier d'assurance maladie et assurance obsèques avec la société Activa. La cellule de crise a donc pour mission notamment de récolter et centraliser toutes les informations sur la situation des magistrats afin d'élaborer des stratégies pour leur sécurité directe, de prendre en charge ceux qui séjournent à Kinshasa, dans d'autres villes et à l'étranger. Les magistrats renouvellent leur loyauté et disponibilité à poursuivre leur participation à l'effort de la consolidation de l'état de droit. Le bureau du CSM décide également de régulariser les cas des candidats magistrats retenus après leur contrôle physique avant de transférer leur dossier au président de la République pour nomination.
L'opposant Martin Fayulu, avec une délégation de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, c'était hier, mardi, ici à Kinshasa. Selon les participants, leurs échanges ont porté sur la nécessité impérieuse de fédérer les forces et de renforcer l'unité nationale afin de pouvoir s'exprimer d'une seule voix. Nous sommes convaincus que l'implication de Martin Fayulu, en raison de son influence et de l'attention qu'il suscite aux côtés des autres forces vives de la nation, serait déterminante pour obtenir la cessation des hostilités, affirment les leaders de la plateforme des confessions religieuses de la RDC. On écoute à cet effet Prince Epengé, porte-parole de la Mouka, au micro d'Alain Irung.
Au menu de leurs échanges, évidemment, la recherche de la cohésion et de l'unité nationale, puissant vecteur des rassemblements des filles et fils du Congo, au fin de retrouver la paix. Il était question dans les échanges fructueux et patriotiques entre l'élu du peuple Martin Fayulu et les représentants des églises de réveil, comment unir les forces, comment rechercher la cohésion, comment avoir une démarche inclusive au fin de mobiliser l'ensemble du peuple pour retrouver le plus rapidement possible la paix. Martin Fayulu était celui qui, depuis 2 ans, s'est battu et a mobilisé le peuple pour retrouver l'unité et la cohésion entre les fils et filles du Congo, a accordé une attention particulière aux desiderata des représentants des églises de réveil.
Santé à présent, l'épidémie de choléra continue à s'étendre dans la province du Haut-Katanga avec ses chiffres, plus de 1505 cas, dont 37 décès enregistrés depuis le début de l'année. Pour y faire face, le ministre provincial de la Santé et les partenaires peaufinent des stratégies pour intensifier la lutte contre cette maladie dite de main sale. C'est notamment la sensibilisation de la population pour l'assainissement des milieux et le respect des mesures d'hygiène. Cette question a été débattue lundi au cours de la réunion multisectorielle de lutte contre cette épidémie. D'autres détails avec le médecin inspecteur provincial du Haut-Katanga, Thérèse Kaila-Nyanga, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
La surveillance épidémiologique montre en plus l'urbanisation de l'épidémie dans toutes les 3 villes de la province à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, sans épargner les zones de santé rurales. 45% des positivités des échantillons prélevés, plus de 50% des cas de décès dans la communauté et les recours tardifs au niveau des structures de soins nous appellent à une surveillance accrue dans nos milieux respectifs. Par rapport à la prise en charge, des centres de traitement sont mis à disposition à la Kenya, à Kisanga, à Poleni, à Mounoua, à Chamilemba en préparation pour une prise en charge médicale et nutritionnelle gratuite. Le renforcement des capacités des prestataires ainsi que de la logistique en lien avec les intrants à prépositionner et les moyens de transport des cas. Les dispositions sont prises pour accroître la désinfection des ménages, la potabilisation de l'eau par chloration, l'installation des sites de réhydratation orale dans la communauté, ainsi que des enterrements dignes et sécurisés.
La population de Kasongolunda préoccupée par l'invasion des buffles, ces bêtes ravagent les champs des paysans à Pandi, notamment dans l'ex-Bandundu depuis quelques temps. Selon l'administrateur de cette entité qui lance l'alerte, cette situation est aussi parmi les causes de la rareté des produits agricoles dans ce coin de la province du Kwango, créant ainsi la malnutrition chez les habitants. Arsène Koukangidila parle de refoulement comme mesure. Il dit avoir fait le rapport au niveau du gouvernement provincial à qui il demande de tout faire pour refouler ses buffles. Irène Bomaluzolo pour plus d'explications.
C'est une situation préoccupante pour les habitants du territoire de Kasongolunda, précisément ceux vivant dans les groupements de Kapemba situés dans la partie sud du secteur de Panzi. Nous sommes dans la province du Kwango. Ici, des buffles en circulation entre cette province et les pays voisins d'Angola commettent d'énormes dégâts qui affectent même la survie de la population. Selon l'administrateur de Kasongolunda qui alerte, ces bêtes ravagent sauvagement les champs des paisibles citoyens qui ne savent à quel sein se vouer. Il s'agit entre autres des champs de manioc, de maïs, d'arachides et bien d'autres cultures. Situation qui, selon Arsène Koukangidila, est à la base de la rareté des produits agricoles qui occasionne aussi la malnutrition aiguë, sévère et chronique qui bat son plein dans ces coins du pays. Préoccupé, il en appelle à l'intervention du gouvernement provincial pour le refoulement de ces bifles.
Il y a beaucoup de bifles qui ravagent les champs. Même si les gens cultivaient, les bifles viennent ravager et ça pose aussi un sérieux problème. On est dans ce processus de refoulement et je pense que le gouvernement provincial va prendre des mesures pour le refoulement.
À en croire l'autorité territoriale de Kasongo-Lunda, cela fait déjà plusieurs années que les bifles détruisent les champs agricoles dans le secteur de Panzi. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ukraine, l'Europe divisée sur l'envoi de troupes réunies en urgence à Paris. Les principaux dirigeants européens de l'OTAN échouent à se mettre d'accord sur l'envoi de troupes en Ukraine face à la perspective d'un cessez-le-feu négocié entre Washington et Moscou. L'Allemagne juge inapproprié le débat sur une force d'interposition européenne.
L'invité.
Notre invité est Paulin Nkosuéou, porte-parole de l'UNICEF à Goma. Il revient sur l'impact de la guerre sur les enfants et les conséquences sur leur bien-être. Paulin Nkosuéou s'entretient avec Ronli Ntimbonera.
Monsieur Paulin Nkosuéou, bonjour.
Bonjour.
Depuis 3 ans, l'Est de la République démocratique du Congo connaît une recrudescence des violences, une situation qui s'est aggravée cette année avec l'intensification des combats dans le Sud Kivu. Quel impact ces violences ont-elles eu sur la vie des enfants?
Comme vous savez, en situation de violence comme celle-là, les enfants sont ceux qui payent le plus le prix en fait, de ces situations-là. Je vous donne quelques éléments concrets. Généralement, après ce qui s'est passé à Goma et à Bukavu, les parents fuient avec leurs enfants pour essayer de se mettre à l'abri. Pendant ces fuites, de nombreux enfants sont séparés de leurs parents. On a noté ici à Goma, par exemple, de nombreux enfants dans les hôpitaux qui ont été blessés. Et il a fallu qu'on commence à travailler pour essayer de retrouver leurs parents. Donc les séparations familiales sont une conséquence dramatique de ces situations. Évidemment, dans ces situations-là aussi, à cause de l'insécurité, les écoles sont fermées, ce qui pose un problème bien particulier pour l'avenir des enfants. On espère que les écoles pourront réouvrir très rapidement pour que les enfants continuent à vaquer à leurs occupations scolaires, parce qu'il en va de leur avenir, mais c'est aussi un élément qui permet de les détraumatiser de tout ce qui a pu se passer. Si je considère l'aspect de la protection, vous savez, dans les situations de séparation familiale que j'ai décrites tout à l'heure, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et peuvent très facilement tourner vers d'autres horizons qui ne sont pas forcément les meilleurs pour leur futur et pour leur développement. Après maintenant, je vais peut-être finaliser mon point en parlant des conséquences qu'il y a sur le côté nutritionnel, sur l'aspect sanitaire. Comme vous le savez, le Nord et le Sud Kivu, c'est des foyers des épidémies. Donc, en situation de crise comme celle qu'on a connue, voilà, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, comme je vous ai dit. Les structures de soins ne sont pas forcément toujours à jour pour pouvoir les prendre en charge, ce qui fait que les risques que connaissent les enfants dans ces situations-là sont particulièrement dramatiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec la communauté humanitaire et avec les différents partenaires, on essaye d'apporter une assistance dans tous ces domaines, que ce soit en nutrition, que ce soit en protection de l'enfant, que ce soit en eau, hygiène, assainissement, qui est un point très, très important, mais aussi en éducation, pour s'assurer que les enfants continuent à mener une vie à peu près normale malgré les circonstances.
Mettons un accent particulier sur le plan éducatif. La destruction des sites déplacés à Goma a contré les nombreuses familles à retourner dans leur village d'origine. Ces enfants ont-ils aujourd'hui un accès effectif à l'éducation?
Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc je ne peux pas commenter là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a un grand défi aujourd'hui, c'est de s'assurer que les enfants des familles ont accès à une éducation. Que ce soit quand ils sont dans les sites de déplacés à Goma ou bien quand ils sont de retour dans leur zone d'origine. Je pense que c'est un gros défi qui doit être relevé. Il faut déjà identifier où sont parties ces familles. Est-ce qu'ils sont rentrés effectivement dans leur zone d'origine? Est-ce qu'ils sont avec les familles d'accueil à Goma? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et une fois que ces questions trouvent des réponses, on peut maintenant réfléchir à comment appuyer de façon coordonnée pour que ces enfants-là retrouvent le chemin des bancs. mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas.
Plus de 400 000 enfants sont hors du circuit scolaire ou ont vu leur circuit d'éducation perturbé. Est-ce qu'il y a un programme spécial auquel pense l'UNICEF pour encadrer ces enfants en cette période marquée par des violences dans l'Est de la RDC?
Les chiffres sont assez impressionnants et vous doutez bien que l'UNICEF tout seul ne peut pas répondre à ce besoin, mais l'UNICEF, en coordination avec tous les partenaires, essaye de trouver des financements pour pouvoir mettre en place des programmes d'éducation, que ce soit l'éducation d'urgence, mais aussi renforcer les différentes structures étatiques qui travaillent dans le domaine de l'éducation, les PSP et tous les autres. Donc, c'est un grand défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il en va de l'avenir de ces enfants et il faut qu'on trouve les moyens de faire en sorte qu'ils retournent à l'école. C'est ça à quoi nous attachons en ce moment.
52 millions de dollars, est-ce que c'est suffisant pour ce qui concerne les conséquences de cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu?
Je ne sais pas si c'est suffisant, mais ce que je peux dire, c'est que certaines écoles qui ont été endommagées, il faut les réhabiliter, il faut travailler avec les institutions gouvernementales qui sont en charge de l'éducation pour s'assurer que l'école recommence. Donc voilà, je pense que les dommages sont assez importants. J'espère que nous aurons aussi auprès de la communauté internationale suffisamment de moyens pour pouvoir faire ce travail qui n'est pas facile, qui est coûteux.
Monsieur Paulin Nkosu, merci.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mais je vous rappelle cette nouvelle qui nous est parvenue en dernière minute. Selon des sources locales, un appui aérien a permis au FRDC de contenir l'attaque de M23 et leur soutien RDF et de repousser les assaillants jusqu'à l'entrée de Kitsombiro. Les mêmes sources affirment que les rebelles du M23 ont abandonné des armes et équipements militaires en prenant la fuite. Nous y reviendrons. Voilà, c'est vraiment la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung, à Richard Junior Kamunga et à Dieudonné Nyangasa.